Bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Une émission qui vous encourage fortement à venir sur cet espace public, un espace finalement qui vous appartient, vous, les citoyens victimes d'abus d'autorité et d'abus de pouvoir. Un espace qui vous offre l'opportunité sans aucune distance de limite, alors que vous êtes simplement libre de vider le trop-plein, partager avec les autres victimes votre expérience, votre souffrance, dont ce geste de dénonciation peut-être vous épargner à d'autres victimes potentielles le calvaire de l'injustice et de l'abus de pouvoir. Votre courage à dénoncer l'abus de l'autorité demeure une première démarche en vue de rencontrer des solutions sur une grande échelle. Nous profitons pour vous rassurer que vos témoignages et vos interventions sur ces ondes font agir la population et les responsables concernés, même si la fréquence de l'écoute n'est pas assez large. Les grands médias, et vous le savez très bien, ne s'intéressent plus aux citoyens et encore moins aux citoyens ordinaires. Ce dernier, dans un langage plus direct, n'est simplement plus rentable. Et voilà, tout est parti sur cette ligne de spectacle où les individus sont considérés à la valeur de leur statut social. Et si vous n'avez pas de statut et de poids réel, par défaut bien sûr, sachez que vous êtes une proie plus facile à dévorer par les requins de l'autorité. Conséquence, le citoyen devra augmenter sa vigilance, être doublement averti et surtout d'être conscient des enjeux politiques qui l'entourent. Chère auditrice, chers auditeurs, vous devrez être aussi conscient du fait que nous sommes tous exposés et en tout moment, à la torture de l'injustice. Notre société, soi-disant moderne, malheureusement, ne fait pas l'exception. Voilà, donc encore une fois, une raison pour laquelle vous êtes tous invités à participer dans ce projet de reconstruction. Votre dévouement au bien de cette société est hautement réclamé. Alors le dernier choix vous revient, vous pouvez rester immobile et les choses vont tourner et s'accumuler. Un jour, vous serez inévitablement pris dans votre propre choix. Sinon, vous avez la possibilité aussi d'agir et d'intervenir et vous maintenez le contrôle, la sécurité de votre train de vie. Vous pouvez toujours nous appeler, chères auditrices, chers auditeurs, pour participer à cette émission au 514-273-4302. Je répète, au 514-273-4302 ou bien nous écrire info@commercialmage-québec.com ou bien, je répète aussi, info@commercialmage-québec.com. Ce matin, nous ne pouvons pas non plus passer à notre sujet d'aujourd'hui, bien sûr, sans saluer l'effort des étudiants en grève. Ils sont déjà à leur 53e journée de grève. On dit bravo, donc il faut surtout continuer à maintenir le cap. Le combat vous revient forcément à condition de ne pas se disperser. Vous avez déjà gagné une grande partie et le camp des libéraux se craque des fissures visibles, alors que le chef du parti Jean Charest ne reculera pas aussi facile que vous le pensez. Une attitude observée d'ailleurs et analysée dans le parcours de cet homme qui n'est pas digne de gouverner. Crier d'ailleurs des tensions au sein de la population n'a rien de positif et encore moins de sagesse politique. Finalement, on dit aux étudiants, si vous ne baissez pas les bras, si vous allez obtenir, vous allez d'ailleurs obtenir quelque chose d'historique. Et Jean Charest, peut-être songe-t-il pour une fois à se retirer de la vie politique. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, entre autres, la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Comme d'habitude, mon collègue Roland Cazès, qui n'est pas encore arrivé, va m'accompagner le long de cette émission. Et vous avez dans son exemple le citoyen qui dit à haute voix ce qu'il pense. Notre sujet aujourd'hui est autour des centres de thérapie, ces établissements certifiés et normalement supervisés par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous allons, à travers le témoignage d'un résident qui a passé une longue période derrière les murs de ces établissements, connaître un peu plus sur le fond et le rendement de ces derniers. Donc, avec nous aujourd'hui, Monsieur Arthur Mathios, un résident montréalais âgé de 33 ans qui a souhaité témoigner dans cette émission pour nous parler justement de ces centres thérapie. Il dénonce le milieu, bien sûr, ça reste son expérience, mais ça n'exclut pas que le problème existe. Restez à l'écoute après notre thème musical, chère auditrice, cher auditeur. Nous allons reprendre avec ce témoignage la dépendance à la drogue, le crime, la prison, la réinsertion sociale et finalement le souhait d'un individu qui a tout fait pour retrouver sa dignité et qui songe aujourd'hui à militer pour que les choses changent dans ces centres de transition. Restez à l'écoute. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé.
Non.
Hey, bullshit.
Bon, bonjour, chère auditrice, cher auditeur. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Je voulais juste signaler que mon collègue Edgar Robin vient nous rejoindre aussi dans le studio. Donc, je reprends donc selon plusieurs intervenants avec qui nous avons communiqué cette semaine. et en particulier Monsieur Martin Lafortune du centre de thérapie L'Exode, ici bien sûr à Montréal. Donc, il revient en définitif aux résidents, à la personne prise avec des problèmes de jeu excessif, de dépendance à l'alcool et à la drogue, de se reprendre en main. Rapidement, nous pouvons comprendre cette partie de responsabilité qui lui revient, mais des fois, l'individu tout seul n'arrive simplement pas à se reprendre en main. Et justement, les centres de thérapie sont là pour lui tendre justement cette main-là. Des personnes qui cherchent à reprendre leur dignité, de devenir des membres actifs dans la société. Vous savez aussi que ces centres thérapeutiques sont certifiés et supervisés par le ministère de la Santé et les services sociaux. Vous savez aussi que le nombre des itinérants sur l'île de Montréal est de 20 000 personnes. Il y a sûrement beaucoup de ces gens-là qui ont fréquenté ces centres thérapeutiques à plusieurs reprises, mais malheureusement, sans résultat, aucun. Alors, personne n'a posé réellement la question. Est-ce que, en définitive, c'est la faute de tous ces gens-là qui n'ont pas voulu, ou plutôt qui ont refusé carrément toutes sortes d'aides? Une question qui demeure, à mon avis, ambiguë. Et nous avons l'occasion ce matin d'entendre justement le témoignage d'une personne qui a vécu à travers des moments difficiles, d'abord dans la vie et dans ses centres d'insertion. Bonjour, monsieur Arthur.
Bonjour, monsieur Arthur Pinto.
Pinto, ou bien vous m'avez dit...
Mathéas, oui.
Les deux ensemble.
Mathéas,
oui. J'aimerais bien, avant de vraiment de commencer avec vous, je veux juste mes collègues ici peuvent vous poser des questions au fur et à mesure, comme je peux. Mais la première question que j'aimerais bien vous poser avant d'aller dans le fond des débats, de savoir d'abord, vous vivez ici à Montréal pendant combien de temps? Depuis combien de temps?
Moi, je suis arrivé ici en 1984. Dans le fond, moi, je suis portugais, d'origine portugaise. Mes parents...
Vous êtes arrivé à quel âge ici?
Je suis arrivé à l'âge de 6 ans environ.
6 ans?
Oui.
OK. Et votre père, il a...
Mon père, dans le fond, ils ont émigré ici. Ma mère et mon père ont émigré ici avant que moi, j'arrive à l'âge de 6 ans. Parce que, dans le fond, j'ai resté de l'âge de 1 an à 6 ans avec mes grands-parents en Espagne.
Okay. Oui.
Et puis à travers ça, ben eux sont venus ici pour ouvrir le.
Vous savez pourquoi ils sont venus ici, pourquoi ils ont choisi de venir vivre ici?
Une espérance de changer, une espérance de vouloir justement
d'améliorer
leur sort, leur vie, oui, tout simplement.
Donc à votre souvenir là, vous que depuis que vos parents sont arrivés ici, est-ce qu'ils travaillaient?
Là-bas, écoutez, là ils viennent
ici, je parle.
Ici, oui, ils ont commencé à travailler dès l'arrivée. Ils ont aussi commencé à aller apprendre le français, la première chose qu'ils ont faite.
Ouais.
Être sûr de bien insérer la société, de bien s'adapter pour pouvoir aussi me montrer des bonnes racines aussi par rapport à...
Pour vous, le souvenir comme ça, vos parents, ils ont toujours travaillé, mais est-ce qu'ils ont vécu comment, en classe moyenne ou pauvre?
Mes parents, écoutez, c'était une classe pauvre. C'est des ouvriers qui ont sué la sueur de leur front.
Ils ont toujours travaillé et ils ont demeuré pauvres, c'est ça?
Ils ont demeuré pauvres. Les deux travaillaient, il y avait deux travails. Écoutez, il arrivait à peine à joindre les deux bouts, là.
Ouais. Et vous êtes combien de frères et sœurs?
Ben, en tout et partout, il y a moi qui est le plus grand, le grand frère de deux autres petits frères.
Okay.
Un qui s'appelle Antonio et l'autre qui s'appelle Edgar, qui sont plus jeunes que moi.
Voilà. Donc, vous êtes en train de dire que vous avez vécu dans un milieu pauvre, c'est ça?
Oui, très pauvre, monsieur.
Donc, comment pouvez-vous nous décrire un petit peu votre enfance?
Ben écoutez, moi, dès mon jeune âge, je dirais à partir de l'âge de 6-7 ans, j'ai commencé à être pas mal dans la rue, à jouer dans la rue.
Pourquoi vos parents, ils étaient... parce que c'est son travail ou parce que...
Mes parents étaient tellement préoccupés par le stress de la routine, le stress de la société déjà qui prenait vraiment une grande place dans leur vie, qui faisait en sorte qu'il manquait de temps pour moi, tout simplement.
Oui, voilà. Et donc, c'est la rue qui vous a pris, donc c'est ça que vous expliquez?
Oui, c'est la rue, dans le fond, qui m'a pris dès l'âge de 6 ans. J'ai commencé à me faire des petits amis dans la rue et puis à faire des petits mauvais coups aussi dans la rue, comme tout enfant qui vit dans la rue.
Je m'excuse de vous interrompre.
Allez-y,
est-ce
monsieur.
Que vous étiez un enfant à la clé au cou?
Non, aucunement.
En travaillant, était absent, puis automatiquement...
Aucunement. J'ai jamais eu de clé au clou. Moi, c'est système D. Débrouille-toi.
Oui. Les parents travaillaient tous les deux.
Oui, les parents travaillaient tous les deux tout le temps. Tout le temps.
Donc, il y avait des absences quand même. même des parents au foyer, par moment,
oui, forcément,
l'enfant se retrouvait dans la rue automatiquement. La clé au cou, qu'on appelle ici, c'est une expression qui existe sûrement pas en Espagne ou au Portugal.
Non.
Pero la llave.
La llave en el cuello. Si. Non, ça marche pas. Ça marche pas. En tout cas, moi, du milieu où je viens, j'avais pas de clé au cou.
Oui.
Ça a été plus, je me fiais plus à mes sens, à mon instinct, par rapport à qu'est-ce que je devais obtenir. Puis...
Est-ce que vos parents avaient une spécialité dans leur métier? Ou est-ce qu'ils étaient exploités par le système?
Écoutez, ils ont été exploités par le système, premièrement, parce que c'est des immigrants qui arrivent du Canada, qui arrivent au Canada d'un autre pays. Ouais. C'est sûr qu'ils vont, ils vont donner la claque pour les exploiter. Mmh. Ils parlent pas le français. Ils connaissent pas les ressources. Ils sont pas informés de qu'est-ce qui se passe ici au Canada. Fait que c'est sûr que le système va les écraser au départ, là. Puis il y a beaucoup d'immigrants, justement, comme ça, ouais, qui subissent la même chose, là, qui ne savent pas qu'est-ce qui se passe.
Mais si, par exemple, on va aller directement, si vous me permettez, Arthur, d'aller directement à, on va sauter à l'âge de 14 ans.
C'est là, où
vous avez, c'est là où vous avez commencé à consommer, si je me...
Écoutez, c'est là où ce que, comment je peux dire, que la soupape a explosé. Moi, j'appelle ça dans mon jargon, le presto, il a sauté, là.
Ouais,
ça veut dire que j'ai accumulé beaucoup de souffrances, beaucoup de fatigue, beaucoup de problèmes.
Donc, en arrivant à l'âge de 14 ans, vous n'avez pas trouvé d'autre refuge que d'aller vers la drogue.
Écoutez, là, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus accessible pour un jeune de mon âge, de cet âge-là, là, dans la rue, là, c'est la cigarette, l'alcool et la drogue.
Et vous avez consommé de la drogue. Est-ce que vous avez fait des études au cours de ça?
Écoutez, j'ai toujours été bon à l'école, j'ai toujours eu des très bonnes notes. Mes parents m'ont toujours incité à aller à l'école. Ils ont c'est sûr que, écoutez, mon
malgré la rue, malgré la consommation, vous avez quand même fini votre secondaire?
Malgré la rue, monsieur, malgré la consommation, je suis une personne très intelligente avec beaucoup de potentiel. J'ai fait mon secondaire 5. Ouais. J'ai fait aussi un DEP en plomberie chauffage. Et puis prochainement, je m'en vais au collège militaire pour devenir officier.
Oui. C'est bizarre. Si je reviens un petit peu, je reprends. Vous avez eu des délits avec la justice en quelle année?
J'ai eu des délits en 2008. Ça remonte en 2008. Écoute, c'était vraiment dans mon pic de mon déséquilibre.
À quel âge vous avez?
Je dirais environ 26 ans, monsieur.
26 ans.
Oui.
Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé?
Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement encore une fois après? Parce que moi, là...
Parce que même depuis 14 ans, vous commencez à consommer...
Accumuler
des consommations. Et à l'âge de 26 ans, tu me dis ça explose. Et...
Écoutez, moi, j'ai vécu dans la peur, premièrement. Dans la peur, non seulement de mes parents, parce qu'ils avaient peur eux-mêmes, mais la peur de la société qu'on nous impose. On nous impose une peur pour nous contrôler, pour nous empêcher de nous épanouir, pour nous empêcher de devenir la personne qu'on doit devenir. Et ça, monsieur... Je critique ce côté-là. Je critique le côté de la société qui nous fait ça. Mmh. Parce que nous autres, les pauvres, on a aussi le droit de devenir des personnes professionnelles.
Mais vous avez, je comprends, mais vous avez quand même étudié, vous avez eu un diplôme, vous avez une possibilité de travailler. Pourquoi vous n'avez pas travaillé?
Écoutez, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait des job-ins, j'ai toujours travaillé, même dans le milieu de la plomberie. Écoutez, moi, j'ai fait un DEP en plomberie chauffage tout de suite après mon secondaire. Mais tout ça pour me rendre
compte... C'était pas assez pour vous?
Je vais vous dire un peu pourquoi j'ai pris ce métier-là. Je l'ai pris en raison de mon insécurité, en raison de mes peurs, en raison aussi de ma famille, parce que je m'inquiétais pour eux, là.
Vous êtes, à un moment donné, vous disiez que vous êtes devenu presque un parent codépendant. Là.
Exactement. Au bout de la ligne, j'ai développé un problème d'anxiété qu'on appelle anxiété sévère. Et aussi, écoutez, je suis une personne qui vient de l'Espagne. J'ai un peu de sang espagnol. Alors, j'ai des montées d'humeur, là. Ça veut dire que je suis très expressif. Et ici, au Canada et dans les instituts là, médicaux ou psychiatriques, on appelle ça TPS, ce qui est complètement faux.
Oui. Es la sangre caliente.
Sangre caliente, tout simplement. C'est pas une maladie mentale.
C'est
tout simplement que je suis comme ça. C'est mes traits de caractère, monsieur.
Je comprends. Maintenant, revenons un petit peu en 2008. Vous avez commis quel genre de...
Écoutez, je vais vous dire en toute franchise, en tout déséquilibre, à cause, encore une fois, je mets pas toute la blâme non plus sur la société, mais je mets beaucoup les responsabilités. Il faut qu'ils assument la responsabilité parce que moi, à travers ça, ça m'a mis en déséquilibre.
Vous êtes conscient que vous êtes responsable. Vous avez une part de responsabilité aussi.
J'ai une part de responsabilité, je veux dire, mais à quelque part, j'étais inconscient de qu'est-ce que je faisais et j'étais très malade, mentalement, psychiquement, psychologiquement et physiquement.
Oui.
Comment puis-je prendre une bonne décision pour m'aider, monsieur?
Oui, mais excusez-moi, Roland, je vais me poser la question, après ça on reprend. Vous m'avez dit, en période de combien? D'une semaine? Deux semaines, vous avez commis combien?
Ah, OK, pour venir justement, moi j'ai fait 10 vols qualifiés en l'espace d'une semaine.
Oui.
Tout ça...
une semaine, vous avez commis 10 oui. vols qualifiés.
10 appels à l'aide, monsieur. 10 oui. fois que j'ai regardé la caméra dans les magasins et que j'ai dit « Aidez-moi la police. Aidez-moi la police. Je suis en train de mourir. Je suis plus capable. Aidez-moi quelqu'un. »
Parce que vous avez besoin de vous chercher de l'argent pour justement acheter de la consommation, c'est ça?
J'étais pharmacodépendant parce que à travers les centres psychiatriques, j'ai été brimé parce qu'on me prescrivait jamais les bonnes choses ou peut-être j'avais tout simplement pas besoin de médicaments. Alors moi-même, je m'auto-médicamentais avec des stimulants comme la cocaïne, exemple.
Mais est-ce que tu te souviens réellement de ce moment-là où vous avez commis des...
Écoutez, ça a été, comme je vous dis, le presto a sauté. Les émotions étaient tellement fortes, la souffrance, le mal qui...
Tu te souviens même pas, là.
Écoutez, monsieur, c'était...
Mais vous savez bien que vous avez risqué...
De moi, là.
Il y a une chose, quand même. Est-ce que le marché était facile d'obtenir de la drogue? Est-ce que c'était facile?
Écoutez, là, c'est tout de mèche là, avec la police, avec le monde corrompu. Là. Ils font exprès pour que le roulement, dans le fond, pour que le roulement là, de la drogue soit permis dans les rues, pour qu'on puisse être anéantis, nous, les jeunes. Nous, les jeunes, à travers ça, là, on est brimés par la police, brimés par le système judiciaire, brimés par les avocats, brimés par les...
Attends. Oui, c'est bon.
Et l'intimidation aussi du milieu.
L'intimidation, écoutez, du juste par rapport à l'histoire de Freddy, le petit jeune à Montréal-Nord, celui qui était abattu pour rien. Oui. C'est incroyable comment la police peut prendre leur travail à la légère, monsieur.
Oui. Mais maintenant, je reviens. Donc, vous avez commis plusieurs vol et vous étiez arrêté, j'imagine.
Exactement.
Est-ce que vous m'avez dit que chaque fois que vous, avant de commettre, ou bien une fois vous êtes sur le lieu de l'infraction, vous aviez vraiment regardé à la vidéo et vous disiez que j'ai besoin de l'aide?
Je vais vous dire une autre information.
Est-ce que c'est les policiers qui vous ont montré ça?
Non, les policiers ont toutes caché les informations, ne m'ont pas informé non plus de mes droits par rapport à... Ils m'ont laissé poireauter 2 ans, monsieur, dans les systèmes de judiciaire comme Rivière-des-Prairies et Bordeaux. On m'a laissé pourrir à l'intérieur sans aucun diagnostic.
Attends une seconde. Vous êtes en train de dire que vous étiez presque malade, c'est ça la vérité?
Malade, monsieur. J'étais mort ouais. vivant.
Et donc, vous étiez, pour les crimes que vous avez commis, si vous me permettez, vous avez été jugé pour faire 2 ans de prison, c'est ça?
Je n'ai jamais été jugé jusqu'à présent, juste pour vous dire. Je vais vous dire que j'ai eu une sentence.
Mais une sentence, quand même.
Une sentence suspendue et j'ai été prévenu les 2 ans maximum que je devais rester à Bordeaux, ce qui est...
Est-ce que vous êtes retenu coupable ou non?
Pas jusqu'à présent, non.
Jusqu'à présent, non?
Non.
Mais vous avez passé quand même 2 ans de prison.
J'ai passé 2 ans de prison à me morfondre en prison,
mais,
à mon état que j'étais.
Mais j'imagine que vous avez quand même un dossier qui vous a suivi, comme quoi vous êtes malade. Est-ce que, à un moment donné, entre les murs du présent, est-ce qu'il y avait un suivi médical?
Aucunement. J'ai tout fait. Rapport présententiel.
Vous avez fait la demande?
J'ai fait des demandes par rapport à l'aide que je devais avoir. J'ai fait des demandes auprès de psychiatres, psychanalystes, oui. travailleurs sociaux. Aucunement. Personne ne m'a jamais aidé. Personne n'a voulu me prendre en charge. Je n'y m'aider parce que, premièrement, on ne croit pas en moi et, premièrement, les mondes n'ont pas la foi, tout simplement.
Mais vous êtes en train de le dire aujourd'hui, je ne suis pas un criminel, je n'ai pas l'attention du tout, mais c'était vraiment, j'étais malade. C'est ça ce que vous êtes en train de dire?
Très malade, monsieur, très malade, dans un état.
Et finalement, vous étiez en train de chercher de l'aide.
Oh mon Dieu.
Et vous n'avez pas obtenu de l'aide.
La seule chose à quoi je me suis accroché, c'est ma famille, mes buts à long terme et l'espoir de m'en sortir, comme depuis que je suis tout petit, j'ai l'espoir de m'en sortir.
Maintenant, je veux juste savoir, une fois que vous avez ces 2 ans sont écoulés de la prison, vous êtes sorti, j'imagine, vous êtes sorti directement dans la société, vous avez repris directement le train de vie, ou quoi?
Écoutez, là, ça c'est une des plus grandes négligences de la part justement du système judiciaire. On m'a carrément mis sur la route de même. On m'a sorti, on m'a libéré de Bordeaux avec une date de présentation de ma thérapie parce que j'ai eu une thérapie ordonnée par le juge.
Ils vous ont libéré?
Imaginez-vous, hein? Là. Ils m'ont libéré, ça veut dire... Ils m'ont laissé comme ça avec un billet d'autobus. Je me rappelle même pas s'ils m'ont donné un billet d'autobus. Oui. Ils m'ont laissé dans la rue, premièrement. Et puis, la première chose que j'ai faite ce jour-là, c'est que je suis allé consommer du crack.
La journée de la sortie, la journée de la sortie, là.
Ouais.
Oui. OK, mais je veux savoir, vous avez souhaité quoi, finalement?
Écoutez, monsieur...
Normalement, quelqu'un qui sort de la prison, normalement, il devra passer directement dans une maison d'insertion?
Exactement. Écoutez, moi, là, mon but premier, là, j'ai fait toutes les démarches nécessaires, toutes les démarches pour me battre, monsieur. Et puis, à travers ça, on m'a carrément encore brimé parce qu'on m'a laissé dans la rue tout seul comme pour prévenir... Eux autres, ils prévenaient comme quoi que j'allais encore m'embarquer dans une situation à risque.
Vous pensez que vous étiez exposé à faire un autre crime aussi?
Ils ont misé sur ma vie Ouais. Et sur mon potentiel. Ils ont misé, ils ont dit, ah, ce gars-là, là, on va miser sur sa vie, on va bêter comme quoi qu'il va s'embarquer, on va le laisser sortir une semaine, je suis sûr qu'il va s'embarquer.
Vous, pour vous, normalement, chaque personne qui quitte la prison, normalement, il devra passer directement dans un établissement.
Oui, directement. Ouais. On doit être...
Il ne faut pas le laisser à l'extérieur.
Jamais, jamais. Juste à temps qu'on soit sûr que l'individu en tant que tel est, comment je peux dire, en voie de rétablissement.
Mais dans votre expérience à vous-même, une fois que vous êtes resté une semaine aucune surveillance, avez-vous commis quelque chose?
Aucunement, monsieur.
Vous étiez chanceux?
Aucunement, mais j'ai encore succombé à mon problème de toxicomanie, monsieur. Oui, monsieur.
Il n'y avait pas de tutelle en sortant de prison.
Aucunement, monsieur. Aucunement, monsieur.
Voilà, le drame. Le
oui,
drame.
Voilà. Maintenant, je reviens. Voilà, donc, vous étiez allé dans quel centre de thérapie, là?
Écoutez.
C'est obligé d'aller, hein, c'est ça?
Oui, j'étais obligé d'aller, puis moi-même, j'ai fait mes recherches toute seule parce que c'est pas eux qui m'ont aidé à travers les prisons pour trouver ma thérapie. J'ai trouvé le domaine Orford. C'est un centre de thérapie qui se trouve à Sherbrooke.
Oui.
Que je pensais vraiment qu'on allait m'aider à travers ça, et c'est là, monsieur.
C'est vous qui l'avez choisi parce que sous.
C'est le seul centre de thérapie qui est adapté et est accrédité en santé mentale au Québec, monsieur.
OK. Donc, vous avez fait la demande, ils vous ont accepté.
Exactement, monsieur.
Mais ça, vous avez fait la demande des démarches à partir de la prison, j'imagine.
À partir de la prison, et j'avais déjà ça comme but avant de rentrer en prison.
Oui. Vous avez vraiment souhaité aller dans cette place-là.
Exactement,
pour une période
monsieur.
De combien?
Écoutez, je me disais moi-même 6 mois, mais le juge l'a ordonné pour être sûr que justement que...
Donc le juge vous a ordonné de rester 6 mois dans cet établissement-là, justement, pour un passage.
Un
pour
passage
aller
thérapeutique
à la société.
Qui serait supposé... Qui aurait dû m'aider à la réinsertion, exactement.
Voilà, voilà. Maintenant, je veux savoir, bien sûr, si vous me permettez.
Allez-y, monsieur.
Vous êtes dirigé directement à ce centre-là.
Je me suis dirigé par moi-même dans ce centre-là avec le peu de bagages, le peu de choses que j'avais. Je suis sorti de là, j'avais pas d'argent, j'avais pas de bien-être social, j'avais pas rien. Alors, écoutez, là, c'est là que mon cauchemar a commencé, monsieur, dans cette thérapie-là.
Ah. Ils vous ont rejeté dans la rue et laissé à vous-même.
Mec, vous allez connaître l'histoire, ils m'ont brimé, monsieur, puis c'est pas juste moi qui brime, ils briment plusieurs personnes à travers ça.
Ça, c'est malheureux.
Oui.
Oui. Peut-être on va juste faire une pause publicitaire.
Merci.
Et on va reprendre avec notre invité d'aujourd'hui. Vous êtes toujours sur les ondes de Centre-Ville, la radio Centre-Ville.
On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, quelqu'un qui manque d'ambition, un irresponsable, un perdant, que ça prend une personne qui pense juste à elle ou qui manque d'attention. On dit même qu'il n'y a pas de courage, que ça prend un lâche pour faire une dépression. Il serait plus facile d'être couvert de bleu pis de bandage pour que les autres comprennent que ça fait mal et que la guérison peut être très longue. La dépression, c'est une maladie. Maladie, maladie, maladie. J'ouvre mes yeux un matin dans mon lit, encore une de plus de mes nuits d'insomnie. Ma journée commence, puis je file endormi. Dehors tout est gris, le soleil, la joie, puis le bonheur est parti sans me dire pourquoi, sans aucune empathie dans mes états d'âme. Se crée tout un conflit et mon plafond chambre, c'est à lui que je me confie. Si les murs ont des oreilles, ben ils connaissent ma vie, puis ils savent que je demande des réponses au Saint-Esprit. J'ai besoin d'aide, c'est même rendu que je prie, c'est un cri d'aide, mais il faut que je crée. Je perds du rêve, je sais pas ce qui se passe. Dans ma tête c'est noir, puis dans mon cœur ça brasse. Une pression immense qui m'écrase. Ma douleur augmente comme des métastases. Le contraire d'extase, ça me fout la chienne. Je fais des crises d'angoisse. Ma peine, elle, c'est rendu que je l'apprivoise. Parce que je le cache à tous les gens que je croise. J'ai peur d'en parler, je veux pas que le monde jase. Que je suis rendu fou, ou qu'il manque une cause. Que j'ai atteint le fond, comme une teinte vide qui aurait manqué de gaz. Je suis dans le rouge, dans un état de crise. J'ai comme l'impression que les lumières se tamisent. Je suis tellement nerveux, j'ai les mains moites.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse?
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Reggae, L'émission Reggae Dom, c'est les mercredis de 14h à 15h sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Le meilleur de l'actualité sur le reggae francophone et criolophone. Venez vous délecter de la meilleure musique sur les ondes de la Radio du Soleil. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip hop, hagamofi, mala, hango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Donc, je reprends avec mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Arthur Pinto Mathios. Est-ce que j'ai bien prononcé?
Oui, monsieur, c'est exactement ça.
Donc, je reviens un petit peu à ces centres de thérapie. Oui. Normalement, le centre de thérapie, le rôle, c'est la recherche de l'estime de soi. Normalement, vous apprenez aussi à contrôler la violence, à gérer la colère et tout. Aussi la dépendance affective, le pardon, tous ces... est-ce que c'est ça que vous avez rencontré une fois que vous étiez là-bas?
Écoutez, monsieur, je pense que, premièrement, moi, je suis allé dans une place qui se posait être certifiée en santé mentale, ce qui veut dire que les personnes qui travaillent à l'intérieur, tout le staff, les intervenants en crise, oui.
Les animateurs,
tous ceux-là sont supposés avoir une certaine formation, mais à travers ça, je vais vous dire comme un exemple. Celui, mettons, qui est en intervention de crise, à la place que j'étais, c'est un ancien bourreau de pénitencier.
C'est un ancien prisonnier?
Oui, un ancien prisonnier de pénitencier. Dans le fond, comment une personne comme ça peut montrer, justement, à des personnes qui veulent s'en sortir des choses?
Oui, mais pourquoi pas c'est possible? Si quelqu'un, comme vous, par exemple, vous avez toute la de bon foi, vous voulez changer.
Mais écoutez, cette personne-là...
Mais c'était pas le cas.
Non, c'était pas le cas, parce que dans ce cas-là, cette personne-là même avait besoin de soins et était malade. Comment une personne malade peut apporter des soins à une autre personne malade? Ouais. Écoutez, c'est un cocktail monotop, tout ça.
Oui, tout à fait. Mais je veux savoir, vous êtes rentré, je sais qu'il y a des centres qui peuvent, des gens qui peuvent passer quelques heures dans un centre thérapie, combien il y a des gens qui peuvent passer des longues durées, comme 6 mois et un an.
Écoutez, monsieur...
Vous avez passé 6 mois.
Si j'ai passé 6 mois, je suis retourné une deuxième fois, malgré qu'il me brimait, là, monsieur, mais vu
non,
que...
Non, mais avant de passer la deuxième période, oui. Donc ce centre de réinsertion, vous êtes quand même, une fois arrivé là-bas, vous m'avez dit, et vous me corrigez si je me trompe, vous avez eu directement une tâche. Vous avez travaillé, vous m'avez dit.
Écoutez, j'étais en déséquilibre, j'étais aussi malade, on m'a mis comme chauffeur de résident, on m'était responsable dans un auto. J'ai eu des accidents avec les autos.
Et malgré les accidents, ils avaient continué à travailler.
Ils ont continué à me mettre à bout. Dans le fond, leur but, c'était de me mettre à bout, de me mettre en déséquilibre pour pouvoir, dans le fond, m'avoir comme client et que je retourne dans le système judiciaire et que je retourne encore dans leur thérapie.
Non, mais attendez une seconde là. Vous dites comme quoi vous travaillez énormément. Il y a beaucoup d'heures là-bas. Donc, vous faisiez un chauffeur pour l'établissement. Vous êtes travaillé à la cuisine aussi.
Je coupais le gazon aussi.
Le gazon et
en tout et partout.
Mais dans tout ça, sont les moments des ateliers, sont les moments où tu t'assois avec les animateurs pour apprendre et pour...
Il n'y en a pas beaucoup, monsieur. Il n'y en a pas beaucoup.
Par rapport au travail que vous faisiez là-bas?
Je faisais environ 60 heures par semaine parce que...
De travail?
Oui, on manipulait en étant en déséquilibre.
Mais la question qui se pose aujourd'hui, je poserai peut-être à Roland, est-ce que c'est un centre de réinsertion ou c'est une exploitation? On exploite les individus ou bien...
C'est de la manipulation.
Exactement.
On continue à manipuler
les gens-là.
La personne.
C'est-à-dire qu'on profite de la vulnérabilité de la personne dans ces centres-là.
Exactement. Exactement.
Okay.
Et on a du cheap labor en même temps, puis on roule et on a des subventions sûrement.
Exactement.
Et... mais Arthur, vous avez quand même, dit que vous avez passé, vous avez fait plusieurs accidents, vous avez commis plusieurs accidents.
Exactement.
Tour, et eux, ils n'ont pas vu ou jugé nécessaire de vous arrêter et de vous laisser quand même dans le centre. Ils ont continué à vous donner le tiens, continuez à chauffer.
Ben, écoutez, un autre exemple, ils m'ont mis en déséquilibre mentalement. Ils m'ont fait prendre des médicaments premièrement par un médecin généraliste qui est pas formé pour faire des diagnostics ni des prescriptions psychiatriques.
C'était un médecin du centre.
Exactement. On m'a fait prendre un médicament qui s'appelle Abilify pour ceux-là qui connaissent un peu ça. Dans le fond, c'est un médicament qui traite les personnes qui souffrent de troubles de schizophrénie, monsieur.
Oui, et vous l'êtes pas.
Et je ne le suis pas, monsieur.
Oui. Et comment vous avez senti, comment vous avez réagi à ce médicament-là?
Écoutez, j'ai tombé vraiment dans un néant, comme qu'on peut dire, dans un néant, dans la peur, parce que premièrement, ils utilisent des méthodes de terreur pour convaincre les patients de les écouter, de revenir. Avec la terreur et la peur, monsieur, là, c'est une bonne façon de faire comprendre à des personnes qui sont faibles et qui ont peur.
Vous m'avez dit quelque chose.
Les personnes finissent par être paranoïques. Quoi.
Ils tombent en déséquilibre total et pour eux, c'est un investissement à long terme parce qu'ils se disent que le client va revenir dans le système judiciaire, va revenir dans le système des avocats, de la police et de tout ça. Et dans fond, c'est un cycle très, très, très méchant.
On va toujours revenir à ce centre de thérapie. Vous m'avez dit comme quoi, une fois avant de rentrer, ou plutôt une fois vous êtes rentré dans ce centre-là, le centre, ils vous ont demandé si vous avez de l'argent pour transférer l'argent dans le compte de l'établissement.
Monsieur, après plusieurs mois, parce que ça m'a pris environ 6 à 7 mois, c'est pas plus que ça, monsieur, pour juste défroster, comme qu'on dit en bon vieux québécois, défroster de la merde qu'ils ont mis dans mon système comme pilule, OK, parce que j'avais confiance au système de la santé. Ils m'ont mis ces médicaments-là, ils m'ont fait perdre le cap ben raide, puis à travers ça, dans ma propre thérapie du domaine Orford, on m'a manipulé pour que je puisse... on m'a manipulé d'une façon vraiment radicale. Là.
Non, mais je parle de l'argent. Vous avez épargné un peu d'argent de côté.
3 300 $ exactement qu'ils m'ont obligé à mettre dans leur fonds.
Eux qui vous ont obligé de transférer cet argent dans leur fonds?
Et ils m'ont même pas laissé sortir pour aller à ma propre banque, la banque CBC avec laquelle je fais affaire.
Alors, attends, je veux savoir. Vous êtes en train de le dire aujourd'hui que c'est-à-dire eux, ils ont devenu automatiquement les gérants de votre argent. Ils géraient
exactement.
Votre argent.
Dans le fond, là, ils m'ont volé mon argent pour leur mettre dans leur compte.
Avant d'arriver à voler, parce que je ne le pense pas.
Pour moi, c'est ça.
Je ne pense pas. Donc, vous avez souhaité que si votre argent soit transféré là-bas, c'est vraiment attendre à la sortie du centre que vous pouvez gérer votre argent. Mais au moment que vous étiez dans le centre, vous n'étiez pas apte à gérer cet argent.
C'est-à-dire qu'ils ont fait le rôle d'une curatelle.
C'est ça, voilà.
Mais
voilà.
Est-ce que ces fonds, il les a récupérés?
Il l'a récupéré. Par contre, il disait qu'il consommait, il continuait à consommer même s'il était dans le centre, c'est ça.
J'ai un trouble compulsif. Je suis compulsif à acheter des affaires. Je suis compulsif aussi par rapport à la drogue. Il savait très bien mon état de santé. Écoutez, il y avait mon...
Et chaque fois que vous avez besoin de l'argent, vous faites la demande et ils vous donnent de l'argent, c'est ça?
Exactement, à petit montant.
Mais là, jusqu'à vous avez épuisé complètement votre argent.
Là, dans le fond, parce qu'ils m'ont mis en déséquilibre avec le médicament et un paquet de cossins, et puis ils m'ont mis vraiment hors de moi-même. Et puis moi, dans la peur, j'ai pris ce 3 300 $-là.
Oui.
Et je lui ai dit, là, je m'en vais d'ici, j'ai peur de vous, là. Vous allez me brimer encore plus, puis je vois où ce que vous voulez emmener avec mon argent.
Non, mais cet argent-là, ça servit à quoi? Finalement, ça servit à des jeux, à des...
Je vais vous dire qu'est-ce qui est arrivé.
Vous les avez grillés, quoi.
À travers mon déséquilibre, dans la propre maison de thérapie, il y a une demoiselle que j'ai connue qui s'appelle Julie. À travers ça, dans le fond, elle a vu que j'avais retiré mon fonds de pension. J'ai fait de la gaffe, moi, parce que j'étais en déséquilibre.
Okay.
Dû lui en parler, et puis je me suis fait voler tout mon argent.
Non, mais c'est pas grave. Mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Vous avez souhaité quoi? Vous avez souhaité que cet argent-là qui vous donne pas l'autorisation de prendre cet argent-là jusqu'à la fin de la thérapie?
Moi, je veux plus que ça arrive à la prochaine personne. Je veux plus que les personnes qui ont des troubles de santé mentale aillent à passer par là, aillent à souffrir comme moi je l'ai souffert. Et surtout, que notre argent, même si on est des personnes pauvres, même si on est des personnes qui viennent d'un milieu qui a beaucoup rushé, Écoutez, là, il faut que notre argent soit pris en charge d'une façon professionnelle.
Voilà, c'est ça, très bien, ce que je voulais dire.
Parce que vous, vous travailliez dans la construction.
Non. Moi, je suis plombier de carrière, monsieur.
Oui, il a ramassé un peu d'argent.
Est-ce que, excusez-moi, le fonds de pension, là, vous n'êtes pas à l'âge de la pension, mais je suppose que c'était le fonds de la construction.
C'était le seul fonds de la CCQ, dans le fond qu'on appelle. Nous, on a le droit de retirer notre fonds de pension.
C'était de la FTQ. Le fonds de la solidarité.
Et puis, oui. À travers...
Vous avez retiré votre argent.
Et... Moi, j'ai retiré mon argent pour but à long terme de commencer à aller étudier à Sherbrooke et de meubler mon appartement.
Ben, d'utiliser pour le bien, quoi.
Excusez-moi, je ne veux pas faire de... parce que dans la construction, on a un fonds de pension qu'on peut retirer n'importe quel temps. Ça appartient à la FTQ, fonds de solidarité.
C'est ça ce qu'il a fait.
Et ce fonds-là, il peut le retirer n'importe quel temps. Étant en difficulté, il s'est dit, je vais retirer ce fonds-là pour étudier.
Oui.
Voilà. Alors, il faut éclaircir les choses.
Non,
il n'est pas à l'âge de la pension.
Non. Mais excuse-moi, ouais. Roland, Arthur, il nous dit aujourd'hui comme quoi il n'était pas, il fallait pas que le centre de thérapie, il fallait pas que c'était lui qui gérait son argent.
Tu comprends? C'était la FTQ qui le gérait.
J'ai eu confiance en eux aussi, là. Mais j'aurais pas dû, là.
Ouais. C'est ça.
Mais donc, vous pouvez le retirer n'importe quel temps. C'est ça qui s'est passé. Ils lui ont fait retirer ce fonds-là, ouais. Et puis ils l'ont exploité, eux.
Mais leur but aussi, qui était plus mesquin que ça, c'était vraiment là que je floue mon argent dans le fond.
Mais pourquoi vous dites ça? Parce que
c'est parce que j'ai eu plusieurs avertissements, j'ai eu plusieurs choses qui m'ont fait voir. Premièrement, ils m'ont pas laissé aller déposer mon argent à ma banque. Ouais. Ils ne voulaient pas faire tout. Ils me disaient que mon institution financière allait me nuire.
Oui. Mais ça, c'est vous qui le dites. Hein. Mais nous, ce qu'on veut savoir aujourd'hui, et ce que nous avons compris, si vous me permettez, comme quoi vous avez tout simplement souhaité que votre argent reste à la fin de la sortie. Peut-être vous pouvez réinsérer la société, vous avez un peu d'argent dans la main, et vous pouvez un petit peu
étudier
cet argent-là convenablement.
Je voulais retourner à l'université de Sherbrooke, justement, pour poursuivre mes cours. Je veux faire un bac en langue, parce que je maîtrise déjà 4 langues. Puis à travers ça, c'était la seule façon pour moi de meubler là-bas, de m'acheter un petit ordinateur, de m'acheter peut-être un véhicule pour pouvoir me déplacer.
OK, mais il y avait combien de résidents dans le centre d'octroi?
Monsieur, on était un nombre incroyable, 150 résidents pour quelques résidents.
Combien de professeurs il y avait là-bas?
Deux ou trois.
Pour 150 résidents,
personnes, ouais.
Il y avait trois
en
étudiants.
En santé mentale.
Il y avait trois étudiants.
Ouais.
Et combien d'intervenants?
Écoutez, ils sortent même pas du bureau. Ils ne veulent même pas sortir sur le plancher parce qu'ils ont peur de se mêler à nous. Ils ont peur de nous aider. Tout simplement pas nous aider, monsieur.
Mais est-ce que tous ces gens-là, qui étaient là, les résidents qui étaient là-bas, comment ils passaient leur journée là-bas?
La jungle, tout le monde. Il y a du monde qui parle tout seul. Il y a du monde qui se lave pas. Il y a du monde. Il y a des tiques. Il y a des bibites. On est en pleine. Pourquoi pensez-vous qu'ils nous mettent en pleine forêt? Parce que là-bas, personne peut rien voir. Puis ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec nous. Pour nous traiter comme de la merde.
Oui. Mais vous, une fois vous êtes sorti, vous avez quitté 6 mois, qui a jugé que vous étiez apte à sortir?
Ben écoutez, encore une fois, ça fait partie du processus. Hein? Il faut qu'on s'en aide à la maison de réinsertion à Sherbrooke, la maison de réinsertion qui est supposée nous aider. Et savez-vous quoi? Ils m'ont mis dehors de là, en plein hiver, en faisant exprès, puis en sachant que j'avais plus d'argent, puis en sachant aussi que j'étais mal pris, ils m'ont mis en pleine rue. Oui. Avec mes valises, comme ça.
Oui. Non, c'est pas qu'ils ont mis, c'est-à-dire la fin de la, il y avait une période à passer là-bas, et vous disiez que finalement vous étiez même pas apte à sortir encore.
Non, monsieur.
Et vous étiez pas le seul, il y avait quand même 150 individus qui étaient là-bas, et pour vous, ils ont tous le même calvaire, quoi.
Premièrement, je vais vous dire, eux autres, ils nous disent tout le temps, puis ils nous répètent sans cesse, tu vas être malade, tu t'en sortiras pas, t'es un toxicomane, t'as un trouble de santé mentale à vie.
C'est les intervenants qui vous disent ça?
Monsieur, on nous brainwash à nous dire qu'on va être toujours malade et qu'on s'en sortira jamais, et ça, c'est inacceptable.
Vous êtes sorti, hein? Vous êtes quand même pas réussi, c'était la fin de cette période réinsertion, si je me permets, et vous avez quitté le centre après 6 mois, et vous m'avez dit que vous êtes revenu avec vos propres moyens.
Encore une fois, monsieur, je suis revenu
avec vos propres moyens.
Écoutez, je suis une personne très humaine et très gentille.
Vous n'étiez pas obligé de revenir?
Aucunement.
Mais pourquoi vous avez décidé de revenir?
C'est la seule place.
Vous avez senti le besoin
d'aller aussi. Parce que je suis une personne aussi qui a toujours l'espoir que les personnes raisonnent. Oui. Moi, je suis une personne qui pardonne. Je suis une personne aussi.
Mais Arthur, ce que je comprends pas, vous avez vu que 6 mois, ça n'a pas fonctionné, ça n'a rien donné. Pourquoi vous êtes retourné
pour la facette réinsertion sociale que je voulais continuer chez eux pour pouvoir.
Vous avez gardé un espoir que ça va changer?
Posez-vous la question, monsieur Dittoni, puis monsieur. Posez-vous la question, pourquoi nous avons des itinérants qui n'ont pas été guéris?
C'est ça la question, c'est ça la question.
C'est parce qu'on les a mis dans la rue.
C'est ça la question.
S'ils sont pas retournés, ils sont restés dans la rue.
C'est ça la question qui me dérange. C'est exactement la question qui me dérange.
Il
y a 20 000 itinérants dans l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal.
Ou pire, dans la rue, itinérants, ou retournés sur les lieux.
Ça veut dire que ces centres-là, finalement, ils ne sont pas efficaces, tout simplement. Non. Écoutez, on va faire juste une petite pause musicale et on va revenir avec notre invité d'aujourd'hui pour finir notre émission.
Sont arrivés en Westphalia en criant SOS Gaïa, accoutrés comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée, en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux pieds poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tous là pour manifester contre les multinationales. Et la main foule grelottait en ce 3 jeudi printemps. Et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, émeutés, des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes. Ou de ninja cagoulés, se proclamant activistes. Comme des petits Che Guevara, ils ont pitché deux, trois pétards. Les bus sont rendus dans le tas, je jure qu'ils ont pas veillé tard. Car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le bruit des sirènes, bien étouffés par la fumée des gaz lacrymogènes. Au même moment, la gang de pisse qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease. En version Hillbilly, quand le ciel s'est déchiré, il s'est mis à tomber des clous. Ils ont pris leurs jambes à leur cou, et ce fut terminé. Pas qu'on est rentré déçus, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos. Dans le portique de McDo, j'en suis venu à conclusion. Ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution.
Donc voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Nous sommes avec en retour avec notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Arthur Mathioz Pinto, c'est ça? Voilà. On revient un petit peu, on reprend un petit peu vers votre relation avec les policiers. Hein. Finalement, non, avant de poser cette question-là, vous êtes revenu au centre. C'est un centre où vous avez passé 6 mois. Vous avez découvert à la fin que c'est un centre qui ne sert absolument à rien.
Exactement.
Vous êtes parti. Et comment vous avez pu revenir en sachant que finalement vous n'aurez pas des services à...
Écoutez, monsieur, je ne savais pas où aller premièrement, je ne savais pas où me diriger. Fait que la seule place que je connaissais qu'on m'avait dit de me diriger, c'était là. Puis dans le fond, on me disait...
C'est un sentiment
qui me disait, dans le fond, de m'en aller dans la gueule du loup encore, tu sais. Ouais. Tout simplement, c'est... Après ça, ils vont sortir des mots comme « Ah, oh, t'es auto-saboteur. » Non, je suis pas auto-saboteur. C'est la seule place que je connais que toi, tu m'envoies, dans le fond.
Oui. Mais vous avez quand même eu, ça veut dire, je sais pas, moi, j'essaie de comprendre, c'est un petit peu difficile, mais revenir avec l'espoir toujours de dire « Je cherche de l'aide. » Parce que vous l'avez même dit, une fois vous avez commis les crimes que vous avez commis, vous avez dit « Je cherche de l'aide. » Et jusqu'à présent...
Vous avez employé le mot « espoir ». Moi, je dis « désespoir ». Parce que être dans la rue ou être dans un centre, être itinérant ou être dans un centre.
Oui, mais tout ça, entre...
Le choix est là.
Entre tout ça, son but à lui, c'est vraiment de chercher une porte de sortie, non?
Ben écoutez, je vais vous dire un autre exemple par rapport à qu'est-ce qui arrive par la suite de tout ça. On est en train d'imbriber encore plus. Il y a même eu une invasion par la police chez mon docteur de famille qui a carrément pris des informations.
C'est suite à quoi? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une plainte? Il y a sur les commis quelque chose?
Ils sentent la soupe chaude, monsieur. Ils sentent la soupe chaude, puis ils sentent qu'à travers ça, ils m'ont brimé ma vie, puis ils pensaient pas que j'étais une personne intelligente qui avait de la parole.
Non, mais c'est pas ça. Je veux juste savoir, Arthur, les policiers qui sont intervenus sont allés chez votre médecin?
Oui, mon médecin de famille, oui.
C'était con, ça?
Écoutez, c'est la clinique Halloween, dans le fond, sur la rue Hochelaga. Ils sont carrément débarqués chez mon médecin de famille.
Mais c'est quoi la raison?
Supposément qu'ils voulaient avoir des informations sur moi par rapport à... Parce qu'ils savent que j'ai porté...
Parce que vous avez commis... Ah, vous avez commis... Vous avez déposé une plainte?
Parce que j'ai déposé une plainte contre la maison de thérapie, puis les autres, justement, sont tous ensemble.
Ça, c'est vous qui le dites, je sais pas. Mais, non, mais je veux savoir, est-ce que votre médecin, il a donné l'information?
Mon médecin, écoutez, là, il est tombé dans la peur, dans la panique. Ils ont été intimidés sûrement par la police. Alors, lui.
Il a donné l'information. Mais selon vous, est-ce qu'ils avaient un mandat?
Est-ce qu'il y avait un mandat?
Il y avait des faux mandats, monsieur, sans aucun.
Pourquoi ce faux mandat, c'est un petit peu.
Il y avait des faux mandats, tout simplement, monsieur, parce qu'ils n'ont aucunement
rien
contre moi dans le fond.
C'est privé.
Ils n'ont pas
de santé,
droit de faire ça,
c'est privé. Vous avez même pas le droit de présenter votre carte d'assurance maladie à un policier. C'est privé, la carte d'assurance maladie.
C'est de l'invasion de documents de santé interdit par les lois. C'est inconcevable, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait, monsieur.
Mais vous, c'est votre médecin qui vous a dit que, comme quoi, c'est les policiers qui sont venus chercher des informations.
Mon propre médecin, apeuré, me dit « Hey, la police est venue ici pour retirer des informations sur ton dossier médical. »
Mais depuis que vous êtes sorti du centre de thérapie, vous n'avez pas commis aucune...
Rien, monsieur.
Rien.
Ils me briment. Ils veulent me réduire au silence parce que, justement, je suis une personne intelligente qui peut les mettre à terre parce que leur côté de corruption...
Vous savez, monsieur Zitouni, là, quand vous voulez abattre votre cheval ou votre chien ou autre, là, vous trouvez toujours une excuse. Ouais. Hein, parce qu'il est un œil borgne et puis il vaut mieux le tuer parce qu'il va souffrir. C'est un peu ça qu'on fait avec des humains.
Mais je suis un citoyen et j'ai l'espoir. Voilà. Moi, je ne suis pas une personne qui est criminelle.
Ah, c'est ça.
J'ai toujours l'espoir.
Vous avez pas le sentiment que vous étiez au moment criminel?
Aucunement, monsieur. Aucunement. Je suis honnête. Je suis humain. Je suis bon envers mon prochain.
Vous pensez simplement que c'était des moments de crise.
Monsieur, mettez-vous à ma place et regardez un peu qu'est-ce que j'ai vécu et plusieurs jeunes de mon âge n'auraient pas passé à travers et seraient morts.
Vous m'avez dit que vous souhaitez militer et même
ouvrir les thérapies peut-être
chercher d'autres personnes pour militer justement pour la cause.
Exactement,
ça?
Oui.
Et vous pensez que s'il y aura une amélioration de ces centres de thérapie, il y aura beaucoup un changement, peut-être il y aura de la réinsertion?
Il y a plusieurs individus, plusieurs anciens patients de plusieurs thérapies qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur. Moi, j'invite la population qui sont allés en thérapie à divulguer les informations. À joindre les codes d'écoute comme ici, comme à cette radio, à appeler, à donner des informations, à venir témoigner, parce qu'ensemble, nous pourrons combattre.
Mais vous pensez que tous les centres de thérapie à travers Montréal, à travers le Québec, ils sont pareils ou je pense qu'il y a quand même...
Il y a des grosses lacunes.
Mais attention, il y a des centres privés.
Et puis il n'y a personne qui parle.
Écoute, là, si on a de l'argent, c'est sûr qu'on va manger du steak puis du filet mignon.
Il
y a
des centres privés, Pelado et compagnie.
Ah, ben oui.
Ça, ça coûte de l'argent.
Le pauvre n'a pas le droit de s'en sortir, voilà. Tout simplement.
Voilà. Mais est-ce qu'il y a des inspecteurs qui passent pour vérifier?
Les inspecteurs sont de mèche parce qu'ils voient rien que du feu, eux autres, quand ils arrivent là. Ils mettent tout ça beau, puis quand ils arrivent, ben c'est ça.
Ils avertissent 24 heures à l'avance.
Exactement.
Si on connaît le coup.
Exactement.
Est-ce que vous avez quelque chose à dire aujourd'hui?
Écoutez, moi, la seule chose que j'ai à dire à toutes les personnes qui écoutent
ça... On a compris aujourd'hui, à travers votre témoignage, que vous êtes quelqu'un qui est accidentellement tombé plongez dans le crime.
Exactement.
Et que vous avez toujours souhaité, vous cherchez à en sortir et vous n'avez pas trouvé de soutien, vous n'avez pas trouvé d'aide.
Je vais être l'exemple parfait de la société comme quoi que moi je vais me rendre au collège militaire et que je vais devenir un officier de la marine et puis que je vais être vraiment un génie dans mon domaine. C'est ça que je vais leur montrer.
C'est ça ce que vous souhaitez.
Et c'est ça que je vais être.
Oui, Roland, vous avez...
Oui, c'est la revanche du... comme on dit, la revanche du berceau. À
exactement.
Un certain moment, il faut leur montrer qu'ils étaient dans l'erreur.
Exactement. Mm-hmm. Et c'est belle valeur, mais jamais je vais embarquer dans la police.
Non,
dans l'armée canadienne, oui, mm-hmm. mais non dans la police.
Mm-hmm. Oui. Edgar, vous avez quelque chose à dire?
Moi, je trouve que dans l'ensemble, l'histoire concernant les malades mentaux de Québec, c'est vraiment triste parce que je ne sais pas quel pourcentage des gens dans la rue sont des malades mentaux, mais c'est un bon pourcentage. C'est au moins 10-20%.
Ouais.
C'est des gens qui devraient être soignés. C'est des gens qui devraient être...
Et malheureusement, ils n'ont pas le soin.
Non, non, ils sont dans la rue.
Pas juste dans la rue. Beaucoup de citoyens ont des troubles de santé mentale et ne veulent pas piler par-dessus la peur du ridicule et ne veulent pas non plus aller prendre de l'aide en psychiatrie.
Oui. Mais je parle spécifiquement du fait que les gens qui devraient être aidés, qui sont des malades, ils sont mis dans la rue. Ils ne sont pas soignés.
Il y a une manipulation là-dedans. Parce que ceux qui prennent de la drogue manipulent déjà. On le sait tous. Mais le système manipule ces gens-là d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? On a perdu la guerre contre la drogue, on fait des centres de thérapie, mais les centres de thérapie dont on vous parle, c'est des centres de thérapie qui coûtent cher, que des gens qui ont les moyens peuvent se permettre parce qu'ils prennent des médicaments en masse et tout ce qui s'en suit. Mais à un certain moment, on augmente l'itinérance sans s'en rendre compte. Comment? Eh bien, on prend un jeune qui est dans un centre, on le fout dehors avec ses valises, tu n'as plus qu'à rester dans la rue, tu n'as pas d'aide, tu n'as rien, on ne te dirige pas. À quoi ça sert? À quoi que ça sert?
Non, mais le problème, Roland, c'est l'inutilité de cette
voilà,
sens-là. C'est ça,
voilà,
c'est
à quoi ça sert? Ça prend des subventions
et
ça ne fait pas le travail qu'il
exactement,
doit faire.
Exactement.
Et pourtant, le gouvernement, il donne de l'argent.
Écoutez, moi, là, je ne parle pas contre le gouvernement en tant que tel. Moi, le gouvernement, je les respecte parce qu'ils mettent beaucoup d'argent à travers les ressources et à travers les...
J'imagine, oui.
Je pense juste qu'ils sont mal informés. Les hauts dirigeants là-dedans ne sont pas informés de qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ces choses-là.
Et c'est ça, sur ça, j'aimerais bien...
Personnellement, moi, je pense que les politiciens doivent rester aux maisons de paix quelques jours.
Quelques semaines pour Jean Charest. Je pense que ça ferait du bien.
Attends, les maisons de paix, c'est l'hôtel 5 étoiles. Mais peut-être plutôt le Welcome Hall. Mettre Charest dans Welcome Hall pendant une semaine.
Avec des ampoules dans les pieds, ça ferait du bien un peu.
Ouais.
Donc voilà, je pense qu'on va conclure si vous n'avez rien à ajouter. Voilà, donc c'est tout le temps qui nous reste.
Non, mais moi j'ai quelque chose à ajouter.
Vas-y.
On va le soumettre aux étudiants, l'idée d'envoyer des ministres dans ces maisons-là.
Alléluia.
Voilà donc, chers auditeurs, chers auditeurs, c'est tout le temps qui nous reste de notre émission et j'aimerais remercier M. Arthur Pinto.
Vous êtes bien gentil, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir accepté dans mon studio, monsieur.
Merci donc surtout pour son témoignage, son courage de vouloir en sortir et de cette détermination à militer avec d'autres pour redresser le bilan. Merci à mon collègue Roland Cazès et à Edgar Robin de leur fidélité à l'émission. Sans oublier, bien sûr, Suzanne de Radio Centre-Ville,
merci
de son
Suzanne.
Soutien technique. Merci à vous, chers auditrices, chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission avec intérêt. Et finalement, Radio Centre-Ville 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace pour que la parole de l'autre existe. À moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, à la même heure. Bon fin de semaine. Et voilà, au revoir.
Comme des métastases, le contraire d'extase. Ça me fout la chienne, je fais des crises d'angoisse. Ma peine, elle, c'est rendu que je l'apprivoise. Parce que je le cache à toutes les gens que je croise. J'ai peur d'en parler, je veux pas que le monde jase. Que je suis rendu fou ou qu'il manque une cause. Que j'ai atteint le fond comme une teinte vide qui aurait manqué de gaz. Je suis dans le rouge, dans un état de crise. J'ai comme l'impression que les lumières se tamisent. Je suis tellement nerveux, j'ai les mains moites et mes jambes paralysent. Plein de larmes dans mes yeux à focus. Mon problème que mon corps s'épuise. Mes sueurs froides prennent place comme du feu sur la glace que je fonds dans ma chemise. J'ai du mal à respirer, c'est rendu que j'agonise. La situation me traumatise. Mon cœur bat vite sans aucune maîtrise. Je vomis de la bile parce que je sens que c'est la fin. Mais j'ai peur de la mort et c'est là que je le réalise. Que ma foi se brise dans l'emprise d'une mort incomprise. Fini les souffrances qui sans cesse s'éternisent. C'est maintenant la fin. Adieu la vie, même si ça me terrorise.
Hey, hey, hey. C'est dur. Chuck, ça va, hein? Ça va? Hé! Hé, appelle l'ambulance, mais Chuck, fais pas pantoute! Ambulance, come on!
Pas encore mort, puis je trouve pas ça normal. Je vois tout embrouillé, puis je vois même des étoiles. Le sérum bloqué comme en phase terminale. Je suis tellement stressé, j'en perds les pédales. Une petite pilule avec de l'eau minérale, puis on me dit faut que je l'avale. C'est quoi le fuck? Ça fait 3 mois que je fais le pas, j'étais que rien esti. Puis aujourd'hui je fais le pas parce que je veux des réponses. De toute façon, y a mon corps qui me dénonce. J'ai des points de pression et mes yeux s'enfoncent dans une profonde fatigue comme une mononucléose. Je suis tellement
Non-stop sur les Antilles.
Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Si vous avez collé l'étiquette de don d'organes sur votre carte d'assurance maladie, merci. Mais savez-vous que votre décès, c'est votre famille qui décide? C'est pour ça qu'il faut en discuter avec vos proches. Donc, si vous nous écoutez en ce moment, en compagnie d'un membre de votre famille, dites-lui, je veux donner mes organes. On va attendre un instant pendant que vous le faites. Bon, c'est fait. La Fondation canadienne du Rhin vous en remercie.
Salsa, reggae, kamba, zouk, lambada, bossa nova, fado, hip-hop, tagamofi, mala, tango, samba, merengue, bachata, jazz, chansonnette française, soukous, rock francophone, funk, blues, techno, drum and bass. Toute la musique du monde sur le 102,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.